Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. La guerre des revues scientifiques est déclarée. Les savants français pestent contre l'écrasante domination des revues anglophones. Un exemple totalement ubuesque. Le CNRS, Centre national de la recherche scientifique, ne classait aucune revue de gestion en langue française parmi les meilleures mondiales. Une soumission insupportable à la langue de Shakespeare que dénoncent certains. Parmi eux, Jean-Philippe Denis, chercheur en gestion, et Thomas Parizeau, directeur général adjoint de la bibliothèque numérique Kern.info, qui regroupe une grande partie de la recherche francophone. Bonjour messieurs.
Bonjour Ali.
Alors Jean-Philippe Denis, cet exemple du CNRS, bon c'est terminé, mais c'était encore il y a quelques années, c'est quand même incroyable que le propre CNRS se tirait des balles dans le pied.
C'était absolument incroyable. Comme le dit mon collègue Michel Berry de l'École des Mines, la colonisation naît dans l'esprit des colonisés. Oui. Donc le CNRS mécaniquement déclassait toute production de langue française.
Donc de ses propres chercheurs,
on est d'accord. Donc de ses propres chercheurs, au motif que c'était moins bien que ce qui était produit en langue anglaise.
Non, mais il ne disait pas que c'était moins bien. Il y avait peut-être des critères, non,
Pour l'essentiel, c'était ça.
Ah oui.
Essentiel, parce qu'à chaque fois qu'on a demandé les critères de classement, on ne les avait jamais. Donc, une revue
c'est dingue qu'une démarche scientifique se résume à ça, quoi.
C'était la règle, parce que ça rentrait sur un fond de discours qui était que la recherche est internationale, qu'elle doit être, que l'anglais est la langue dominante, etc. Donc, la conversation scientifique est internationale, donc elle se fait en anglais. Donc, si on parle français, mécaniquement, on n'est pas vraiment dans la conversation scientifique.
Thomas Parizeau, c'est quand même incroyable qu'on soit arrivé là, non ? Comment on peut caractériser la domination des revues anglophones ?
Eh bien, elles sont très installées, elles ont fait un mouvement vers le numérique plus rapide, peut-être que les revues francophones, elles se sont organisées, et d'une certaine façon, c'est un peu ce qu'on fait chez Kern, c'est-à-dire d'essayer d'organiser une réponse et une proposition francophone. Mm-hmm. Parce qu'on pourrait nous dire, c'est peut-être de votre faute aussi, si le français n'est pas assez visible comme langue scientifique, et donc charge à nous, dans des initiatives qui rassemblent pas mal d'acteurs, des éditeurs, des institutions, de valoriser cette recherche francophone. Mm-hmm. Effectivement, on a une proposition efficace, accessible, en France et un peu partout dans le monde, puisque la langue française est une langue très internationale, comme on sait. Donc au-delà de ça, c'était aussi produire des données qui objectivent de plus en plus la valeur produite par ces productions françaises, mm-hmm. hein, pour lutter contre l'esprit de colonisation qu'évoquait Jean-Philippe.
Alors Jean-Philippe Denis, il y a quand même des critères, on est d'accord. Parce que moi, si je regarde sur Internet, je tape « liste des meilleures revues », je vais avoir des classements. Qui fait ces classements ?
Alors évidemment, il y a des critères d'impact, de citation, etc., qui étaient pris en compte par les instances qui classaient. Le problème, alors je vais filer la métaphore d'un autre collègue de chez Montréal, Richard Derry, qui disait « sur une voiture, les roues arrière rattrapent jamais les roues avant ».
Oui, alors, d'accord.
Le problème, c'est qu'on part de tellement loin, puisque les anglo-saxons, dès le départ, ont été dans cette course mondiale qu'ils dominent, que de toute façon, on est mécaniquement, dès qu'on prend des critères, dominé. C'est-à-dire que pour ça qu'on a conçu l'exception culturelle, c'est pour ça qu'on soutient le cinéma et la production et les productions indépendantes. C'est parce qu'à un moment, on est dans un grand marché mondial qui nous assèche et surtout qu'on n'a pas les moyens de jouer. Il faut se rendre compte que la production d'un papier scientifique dans une meilleure revue anglo-saxonne, c'est 500 000 d'euros le coût. Quelles institutions ont les
moyens ? Vous parlez de la gestion, vous parlez de tout le...
En gestion, en économie-gestion.
Donc moi, si je suis une grande école ou une université et que j'ai envie de publier dans une revue prestigieuse anglo-saxonne...
Dite Alpha, voilà.
Voilà, il faut que je mette 500 000 euros.
Ça va me coûter 500 000 euros. Donc ça veut dire qu'en termes
de salaire
budget,
le salaire du prof,
les congrès, les assistants de recherche, etc., le coût complet de production d'un article, les écoles l'ont calculé, c'est plus de 500 000 euros. Ouais. Donc ça veut dire que mécaniquement, les écoles elles vont fusionner, les frais d'inscription vont exploser, etc., pour financer cette fuite en avant qui nourrit une bulle académique avec un paradoxe complet, c'est que personne ne les lit, ces articles. C'est-à-dire qu'on va évaluer à partir de l'impact, c'est ce qu'ils sont cités, mais on n'est même pas sûr que ceux qui les citent les ont vraiment lus. Ouais. Et ça se résume à... Je veux dire, on compte en centaines, quoi. Ouais. C'est vraiment ridicule.
Thomas Parizeau, c'est la même chose dans tous les domaines scientifiques,
non.
Sciences humaines ou...
Il y a des grosses différences entre les disciplines, il faut bien le dire, effectivement. Mais il y a des parallèles. Alors, dans le monde de la santé, de la médecine, qu'on connaît un petit peu aussi également, il y a le même paradoxe qui fait qu'on évalue à l'aune des critères anglophones, et puis avec une seule recherche biomédicale très internationalisée, la qualité de ce qu'on produit dans nos hôpitaux, par exemple. Est-ce que des professionnels, praticiens, chercheurs peuvent produire comme connaissances spécifiques dans un contexte donné, que ce soit en France ou un peu partout dans le monde francophone. Donc c'est un grand paradoxe et, pour tout dire, une erreur, certainement, en termes de pilotage de cette production scientifique, pour des questions d'investissement, comme le disait Jean-Philippe, mais aussi pour la question de qualité et de la question de à quoi sert la connaissance qu'on produit dans nos institutions universitaires, les écoles, les hôpitaux, qui elles visent et si elles visent le monde professionnel, le monde de l'éducation des étudiants en partie, et qu'elle a un certain impact, une certaine portée dans la société. Et la question est de se poser la question plus du lectorat que simplement la question de la production.
Mais ça va très loin parce que, par exemple, il y a un système où on va donner des points aux médecins qui publient.
Absolument.
Donc un point, c'est 640 et quelques euros.
Oui, le système des points SIGAPS, qui est totalement déterministe et terrible, effectivement, où en fonction de son rang dans une revue, en fonction effectivement du nom de la revue et de son score dans un certain nombre de bases, on va avoir plus ou moins de financement pour acheter un scanner ou financer son service d'hôpital. Ce qui est totalement cornélien et pose la question aux évaluateurs de comment, effectivement, aujourd'hui, on pose les critères de qualité de ce qu'on produit.
Évidemment, on a plus de points si on est dans une revue anglo-saxonne.
Et voilà. On revient au même système de vassalisation et un peu de domination intellectuelle, mais aussi tout à fait matérielle et financière.
Pour être très clair, Jean-Philippe Denis, ces grandes revues anglophones appartiennent au monde nord-américain ou anglais.
Alors là, Thomas Parizeau sera beaucoup mieux placé que moi pour répondre, puisqu'on est dans l'écosystème de l'édition scientifique. Mais un point très intéressant, c'est surtout des formats totalement, qui sont très difficiles d'accès pour le grand public. Et donc, quelque part, poser cette question de la circulation des savoirs, c'est en fait le véritable enjeu. Et là, cette circulation, elle est organisée par ces grands éditeurs anglo-saxons, dont les marges sont supérieures aux pétroliers, ce que me rappelait Thomas Parizeau, parce que ça coûte très cher. C'est des questions d'abonnement qui coûtent très cher. Et finalement, on ne sait pas qui lit, et finalement, on touche très peu.
Donc pour vous, c'est une question de souveraineté.
C'est une question fondamentale de souveraineté intellectuelle et scientifique. Et penser vraiment d'autres formats. Vous avez affiché tout à l'heure les rencontres Cairn, qui sont des formats vidéo. C'est justement cette volonté aussi de partager autrement le savoir et pas juste l'enfermer dans un petit club où ça va coûter très cher pour y rentrer, pour y rester, évidemment. Et finalement, très peu de monde qui a accès à ce petit club.
Alors, je vous repose la question. C'est essentiellement des Américains et des Anglais. Et dans ce cas, comment se placent les Chinois ?
Alors effectivement, on a une tentative et il y a une production chinoise qui est de plus en plus importante. Aujourd'hui, l'Académie des sciences chinoise est le premier producteur de sciences à l'échelle internationale et passé devant le CNRS et les grandes universités américaines. Donc on a un moment de mondialisation de la production scientifique. Par contre, les acteurs chinois publient beaucoup dans les domaines de sciences et techniques, assez peu en sciences humaines et sociales, et avec beaucoup de revues nationales. En Chine, on a une logique domestique. On valorise la publication en chinois, c'est un peu l'inverse.
Donc on se fiche des classements anglophones.
En tout cas, on valorise énormément. Un chercheur chinois doit produire une bonne partie de sa production. Aux dernières nouvelles, je crois que c'était au moins 30% de sa production, doit être publiée dans des revues chinoises en chinois.
D'accord.
Donc il y a plutôt une logique de valorisation de l'industrie nationale d'édition qui monte en compétence et en puissance. Avec le rachat, par exemple, d'un acteur français il y a quelques années, EDP Sciences, qui a été racheté par l'Académie des sciences chinoises. Donc on apprend, on se positionne, sans qu'aujourd'hui, effectivement, on soit complètement sorti du bois avec un géant qui est la taille de celui des acteurs nord-américains.
On évoquait. C'est quoi la solution alors ?
La solution, c'est de faire circuler les savoirs, c'est de faire une alliance collective au niveau francophone.
Vous avez parlé de l'exception culturelle française.
Absolument.
Est-ce que là, il faut, comme au cinéma, comme dans la musique, une aide particulière ?
Je pense que ça mériterait d'être réfléchi. J'avais proposé, il se trouve que j'ai été membre du Conseil national des universités en gestion, j'avais proposé qu'on introduise dans les évaluations des chercheurs, parce que tout le système d'incitation est pensé par rapport à ces grilles de classement. Ça veut dire que si je publie en anglais dans les meilleures revues, évidemment, je vais être promu, je vais avoir des primes, etc. etc. Donc moi, j'avais proposé qu'on intègre au moins des qualifications pour la fonction publique, qu'on intègre une logique de quota. C'est-à-dire qu'il fallait un minimum de production francophone, un peu
comme chinois, d'accord.
Pour que son dossier puisse être jugé recevable pour un recrutement ou une promotion.
Mais c'est pas passé.
C'est pas passé.
Ah. Donc
pas, on va dire que ça n'a pas vraiment existé. La proposition était sur la table, mais finalement, elle a été un peu étouffée. Mais
elle l'est toujours, hein, finalement. Donc, avec aussi l'idée de valoriser les outils de diffusion en se posant la question du lectorat. Pas simplement une logique de production, comme le disait Jean-Philippe, effectivement, qu'on puisse avoir une logique qui valorise l'impact qu'ont les productions, francophones notamment, auprès des étudiants, auprès des professionnels et auprès des chercheurs dans tout type de pays. Mmh. Sur Cairn, on avait analysé un peu ce lectorat. L'impact de la production francophone, je sais pas, dans le monde francophone, sur le continent africain, est énorme, ouais. Notamment en gestion. Mmh. C'est vraiment une des premières ressources lues, identifiées bien avant la littérature anglophone.
Donc vous connaissez un petit peu le cadre en ce moment des relations internationales avec un Trump qui est très nationaliste, protectionniste sur le plan économique. Là, il y a une fenêtre. Non.
On est d'accord pour réorganiser un système et valoriser aussi des axes de recherche qui nous semblent importants, nous, en Europe, en France, un peu partout, mais aussi sur le continent africain, avec un effet un peu d'alliance hein, et d'intérêt commun autour de la langue française pour valoriser cette langue comme langue de savoir et ne pas laisser juste la logique américaine, qui devient effectivement assez complexe, se plaquer sur nous et nous imposer des champs de recherche.
Jean-Philippe Denis, dernière question. Il y a une fenêtre, mais est-ce qu'il y a la volonté politique au niveau français et pourquoi pas européen ?
Malheureusement, il y a beaucoup d'inertie, beaucoup de blocage. Voilà, on ne va pas comme ça contre le... Quand on est dans une bulle, ceux qui profitent de la bulle n'aiment pas trop qu'on dénonce les bulles. Ouais. Donc c'est toujours un peu compliqué. Mais Thomas a insisté sur un point très important. Moi, les lignes... J'étais 8 ans rédacteur en chef de la Revue française de gestion. J'avais soulevé, grâce à Thomas... que la Revue française de gestion faisait 1 500 000 consultations d'articles par an. Ça a beaucoup perturbé les institutions, et notamment le CNRS au moment des classements, quand ils ont appris ça, sachant qu'ils raisonnaient sur 20, 30, allez, 100 citations. Et 100, c'était extraordinaire. Là, on parlait d'1 500 000. Donc on est dans ce moment-là où la question de la valorisation scientifique, qui était quand même un appel d'Emmanuel Macron, hein, vraiment, qui travaillait cette question de la valorisation, redevient au cœur du sujet, j'espère. Que Donald Trump va nous aider.
Merci messieurs pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.